Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous nos auditeurs d'Aligre FM pour cette nouvelle émission de Philosophie au présent, une émission qui se veut la voix du Collège international de philosophie et qui a pour vocation de faire dialoguer la philosophie avec d'autres disciplines. Et aujourd'hui, c'est avec une historienne que nous allons réfléchir au lien entre les femmes et les religions en Méditerranée. Nous avons le grand plaisir de recevoir Valentine Zuber. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Autour de ce plateau aujourd'hui, samedi 3 juin 2023, en direct, pour parler de philosophie, histoire, religion, géopolitique et de la place des femmes, Michele Saporiti, qui est à l'initiative de cette invitation. Bonjour Michele.
Bonjour Stéphanie.
Et donc moi-même, Stéphanie Ronchevski. Alors nous regrettons de ne pas être avec notre chère Nathalie Perrin, qui dirige toujours l'émission depuis de nombreuses années, et qui est la voix, en quelque sorte, de philosophie au présent, mais qui malheureusement a eu un contretemps. Je vais donc laisser Michele présenter notre invitée, Valentine Zuber, pour parler d'un de ses livres, un livre qu'elle a coordonné avec Alberto Fabio Ambrosio, et qui s'intitule « Femmes et religions en Méditerranée », qui a été publié aux éditions Hermann en 2022. On y découvre à la fois comment, dans une perspective historique, les religions ont construit un certain discours sur les femmes et à la fois comment les femmes se sont appropriées le religieux. Ceci, bien sûr, va nous amener à nous questionner sur la position des femmes entre soumission à un ordre religieux, souvent qualifié de patriarcal, et l'affirmation, par l'émancipation de leur identité, contre, mais peut-être aussi grâce à cet ordre. C'est à toi, cher Michele.
Merci, chère Stéphanie. Alors, j'ai l'immense plaisir d'introduire aujourd'hui Valentine Zuber. Bonjour, Valentine Zuber.
Bonjour.
Bienvenue à Philosophie au présent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valentine Zuber, vous êtes directrice d'études à l'École pratique des études, Université PSL, titulaire de la chaire Religion et relations internationales, membre du laboratoire ISTARA et membre associé du laboratoire de recherche Groupe Société Religion à la Cité. C'est une chose aussi importante aujourd'hui, directrice de recherche au Collège de Bernardin, co-responsable du séminaire Dialogue méditerranéenne sur le religieux. Et vous venez de co-diriger cet ouvrage extrêmement intéressant à laquelle est consacrée l'émission d'aujourd'hui, Femmes et religions en Méditerranée, sous la direction bien sûr de Valentine Zuber et de Alberto Fabio Ambrosio. Alors, un ouvrage qui donne un regard de grande épaisseur sur la condition de femme et de la femme dans la Méditerranée. Une panoplie de perspectives historiques, sociologiques, mais aussi ethnologiques, juridiques, politiques, au cœur desquelles nous trouvons le statut de la femme, un statut encore pluriel, objet de plusieurs, on doit le dire, discriminations et aussi injustices. Seulement pour vous dire quelque chose en ce qui concerne la structure même de l'ouvrage, nous avons une première partie, femmes et interprétation des écritures, et après avancer des tours au Maghreb, une attention tout à fait particulière et je trouve aussi remarquable pour le cas de la Turquie, et encore un regard élargi, les résistances au Mashrek. Alors, Valentine Zuber, encore merci pour être ici aujourd'hui avec nous. Pour commencer, je voudrais lire un petit passage, un petit morceau de l'introduction de vos directeurs d'ouvrage, Alberto Fabio Ambrosio. Et il écrit « Nous avions décidé de sonder les problématiques que pose l'engagement de femmes dans le vaste système qui est celui de la religion, en tenant compte, naturellement, de ce qui distingue entre elles les trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam. » Donc, toute première question très large. Comment est né cet ouvrage, Valentine Zuber?
Alors, c'est une gestation longue parce que, en fait, avant cet ouvrage, il y a eu un an et demi d'échanges mensuels dans ce séminaire que je co-dirige au Collège des Bernardins, dans le pôle de recherche. Et nous avons eu donc une douzaine de séances thématiques sur avec une discipline particulière parce que notre travail est volontairement multidisciplinaire. Et donc chacun de ces petits moments, ces séminaires où intervenaient deux ou trois spécialistes, nous permettaient d'avancer sur ce vaste sujet qu'est femmes et religions en Méditerranée. Et je dois dire évidemment que nous ne pouvons pas être exhaustifs, mais que notre choix a été de faire appel à des chercheurs ou des chercheuses sur leur domaine de compétences pour essayer d'avancer dans une compréhension d'une Méditerranée partagée. Voilà.
Oh bon, très bien. Stéphanie.
Oui. Moi, je partais simplement de cette notion de religion qu'on a l'habitude de présenter à nos élèves en philosophie comme d'après ce qui l'étymologie relie les hommes entre eux ou relie les hommes au sacré. Pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est que souvent l'ordre religieux instaure une inégalité entre les hommes et les femmes. Et dans votre livre, justement, les exemples ne manquent pas, en particulier dans le chapitre d'Anne-Marie Pelletier intitulé « Des femmes herméneutes des écritures chrétiennes ». Ou encore un peu plus loin, page 83, dans le chapitre sur le féminin pluriel de Claudine Vassas, on comprend que certaines traditions imputent la stérilité aux femmes et c'est ce qui permet de justifier par exemple la polygamie des hommes tout en ramenant la femme au silence. Alors c'est un peu cette inégalité que j'ai envie d'interroger et son rapport justement à la religion ou à la société. En fait, est-ce que c'est la religion qui instaure une inégalité ou est-ce que, au contraire, cette inégalité est déjà, finalement, comme le dit Blandine Chélini-Pont, page 11, est-ce qu'elle est déjà profondément marquée par le statut subordonné des femmes est déjà une caractéristique anthropologique majeure. Donc tout le chapitre va dans le sens d'une inégalité qui serait déjà préexistante aux monothéistes, et évidemment, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux philosophes grecs avec Aristote qui disait que la femme a besoin de l'homme comme la matière, la forme, donc elle est toujours en état d'incomplétude si elle n'a pas avec un homme, de penser aux anecdotes de Diogène Laërce sur Socrate et sa femme qui est toujours hystérique, insupportable, qu'il faut renvoyer et que finalement, si Socrate est le plus sage de tous les hommes, c'est parce qu'il arrive à supporter sa femme. Donc ça, ce sont des petites anecdotes, mais qui vont dans le sens de nous montrer qu'il y a déjà une forme de discrimination, d'inégalité, en fait, entre les hommes et les femmes, précédant aux grandes religions. Alors voilà, est-ce que...
Oui, mais vous avez tout à fait raison parce que c'est ainsi qu'on s'est posé la question initiale, c'est-à-dire est-ce que, dans la mesure où on voulait parler des femmes et de la religion et des religions dans la Méditerranée, l'idée était de savoir si cette culture patriarcale qui est largement partagée à la fois dans l'histoire et dans l'espace de l'espace méditerranéen, si cette culture patriarcale était était première finalement, et ou si ce sont les monothéismes qui sont quand même la grande spécificité aussi de cet espace méditerranéen, qui est quand même le terreau des trois monothéismes, ou si sont les monothéismes qui ont figé, qui ont cristallisé finalement cette culture patriarcale. Et est-ce que les monothéismes ont eu un rôle aussi peut-être dans une certaine émancipation des femmes? femme, c'est parfois ce que certains clercs de telle ou telle religion disent. Par exemple, très, très, très souvent, on entend « mais la situation avant Mohammed était terrible pour les femmes et lui a finalement, dans les termes de son époque, permis une certaine émancipation ». Bon, voilà. Donc, c'est vraiment la question cruciale. Et en fait, on arrive, comme vous l'avez souligné, on est arrivé plutôt à l'idée que c'était effectivement une culture commune, une culture qui a préexisté, comme le montre très bien Blandine, à la fois chez les Grecs, comme vous le soulignez, mais aussi dans l'Égypte pharaonique, mais aussi dans le royaume de Perse. Enfin, tous ces grands empires qui ont préexisté étaient marqués par des lois. Hein. Ce n'est pas seulement des anecdotes, c'est des lois. Hein, c'est des lois civiles, entre guillemets, avec motivation religieuse, mais qui ont organisé ce système particulièrement patriarcal. Et donc, les religions se sont adaptées, et je parle là des institutions religieuses, je ne parle pas forcément du message lui-même, hein, puisqu'on le voit dans les évangiles, par exemple, ou dans certaines parties du Coran, des phrases qui vont à l'encontre de cette subordination, de cette complémentarité qui est une complémentarité où il y a une infériorité très nette du statut de la femme. Donc ça nous intéressait de voir un peu comment les religions s'étaient inscrites dans cet espace culturel marqué par ce patriarcat, mais en même temps comment elles l'avaient transformé. Et deuxième étage de la fusée, je dirais, ce qui nous intéressait beaucoup, c'était l'empowerment des femmes. À travers l'histoire, évidemment, plus récemment, mais comment elles luttaient tout en gardant cette foi religieuse qu'elles pouvaient partager, comment elles luttaient pour avoir une place à la fois dans l'histoire, mais aussi dans les territoires les plus contemporains. Et on voulait enfin montrer que l'émancipation des femmes ne passait pas forcément par la sécularisation complète des sociétés, et que donc il pouvait y avoir une émancipation par la religion à travers plusieurs prises en main, si je puis dire, par les femmes, l'herméneutique, l'exégèse, la relecture des textes sacrés, leur réinterprétation, et puis évidemment les partis politiques, hein, on brasse assez large, les partis politiques fondamentalistes ou à coloration religieuse sont aussi investis par des femmes qui ne sont pas forcément décidées à ne jamais parler, à ne jamais exprimer leurs opinions, même si les conditions de leur, évidemment, de leur exercice sont difficiles.
Bon, très bien. Alors, je voudrais lire un petit morceau à la fin de cette vraiment très intéressante contribution de Blandine Chenipan, qui fait un peu, on peut dire, la synthèse. Et on lit page 22. « La civilisation méditerranéenne avait bien les fondations communes que nous avons définies dans la première partie et l'aura reçu des différentes sources, dont les sources religieuses monothéistes, tout ensemble de représentations et des dispositions anthropologiques, faisant des femmes une précieuse propriété des hommes. L'héritage de cette culture reste fort dans cet espace, à travers la variété des droits présents aujourd'hui dans les bassins méditerranéens, tout comme la persistance d'attitudes sociales toujours fortement valorisées, d'accaparement et des minorisations. » Nous voyons ici, je trouve aussi en synthèse, de plusieurs éléments que vous venez de mentionner, Valentine Zuber. Alors, je voudrais poser une autre question ici, d'un « Femme et religion en Méditerranée », Urmain, Paris 2022. Il n'y a pas seulement un féminin pluriel, il y a aussi un regard pluriel sur la question du féminisme. Je trouvais ça extrêmement éclairissant. Hein. On était en train de parler avant avec Stéphanie. Et dans la contribution en particulier de Laila Tawil, Féminisme laïque, féminisme séculier, féminisme islamique en contexte musulman de Ja. On peut dire l'association est étonnante, j'ose dire. Alors, il y a une véritable histoire très intéressante du féminisme arabe pendant la période coloniale, après l'indépendance et aussi l'attention émergente à la dimension que vous connaissez extrêmement bien des droits de l'homme. Alors, je me permets de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette histoire plurielle du féminisme, selon vous, Valentine Zuber?
Alors, c'est une question difficile. Vous avez rappelé que dans un des articles, qui est effectivement tout à fait éclairant, il est question de féminisme islamique. Alors, quand on parle en France de féminisme islamique, les cheveux se dressent sur la tête et la plupart des féministes disent que c'est que ça n'est pas possible qu'il y ait un féminisme islamique qui soit réellement émancipateur. En fait, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on entend par féminisme, bien entendu. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais est-ce qu'il y a la possibilité d'un féminisme religieux? Y compris dans des religions avec une culture patriarcale ancestrale prononcée. Là, nous avons eu l'apport de Anne-Marie Pelletier aussi, qui est une donc théologienne catholique, donc là aussi très engagée dans un féminisme assumé, mais respectueux aussi des institutions. C'est toujours une manière un peu inconfortable de vivre dans un espace d'hommes, mais elle a sa voix. Et elle montre que ce féminisme chrétien, il a existé par exemple dès le 19e siècle et qu'il y a des femmes qui ont exigé d'avoir plus de place, d'avoir la place pour le prêche, pour dire les choses, pour étudier les écritures, que ce féminisme protestant est devenu, a été intégré dans le catholicisme, qu'il en existe dans le judaïsme et comme vous le soulignez, qu'il y a eu toute une histoire arabe du féminisme, en particulier à la fin du 19e siècle, au moment de ce qu'on appelle la réforme, l'islam réformiste de la fin du 19e siècle. Il y a une égyptienne très célèbre dont j'ai oublié le nom, et travailler cette notion de féminisme croyant. Donc, en fait, il n'y a peut-être qu'en France où on comprend le féminisme comme émancipé forcément du religieux, parce que le religieux, ce serait une forme d'oppression, et donc il faut émanciper les femmes de toutes les oppressions, celles de leur père, de leur frère, etc., mais aussi celles du curé, du pasteur ou du rabbin, ou évidemment de l'imam. Et en fait, ces femmes, elles trouvent plutôt des forces dans le texte religieux, dans la pratique religieuse qui leur est importante pour vivre. Elles trouvent les ressources nécessaires à leur propre émancipation, enfin, telle qu'elles l'envisagent. Donc, ce sont des phénomènes tout à fait importants. Et qui sont d'autant plus importants dans le monde arabe actuellement qu'il y a une forte critique, évidemment, de l'apport de l'Occident via la colonisation, etc. Et donc, l'émancipation féminine, féministe à l'occidental est un repoussoir. Donc, ces femmes ont besoin de construire leur propre féminisme pour avancer pour plus d'égalité dans la société et dans les études religieuses.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, en lisant la conclusion de ce livre qui est rédigé par Jacques Hunzinger, je ne sais pas si je prononce...
Hunzinger,
voilà. Je m'interrogeais justement sur sur ce symbole de l'égalité. Et il dit que parfois, il y a des figures religieuses, hein, comme Jésus, Mohamed, qui sont plus égalitaires même que la religion elle-même, hein, qui les représente. Ça donne à penser, en fait. Hein, comment on pourrait expliquer ça? C'est assez étonnant, en fait.
Alors, on part évidemment du présupposé en sciences des religions que certaines religions, en particulier les religions monothéistes, sont basées sur un texte sacré, sur des paroles, sur des principes. et que après les églises se constituent, les institutions se créent et elles donnent à croire un certain nombre de présupposés, mais qu'elles ont construits après, à partir du texte sacré. Et donc c'est bien cette différence qu'on veut bien établir entre le religieux et les religions, et on ne veut pas confondre les deux. Donc, vous savez, la figure de Jésus-Christ, elle a été interprétée dans tous les sens. Par exemple, en 1848, on en faisait un socialiste. Voilà. Donc, c'est bien le lecteur, c'est bien le croyant, ou c'est bien l'interprète qui va définir à un moment donné ce qu'est le prophète, enfin la personne ressource de toutes ces religions. Donc, nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est les institutions et comment ces institutions bougent. Parce que notre propos, il est aussi de lutter farouchement contre l'essentialisation des religions, c'est-à-dire une vision un peu bébête, anticléricale, qui dit qu'elles sont identiques de tout temps, qu'elles ne bougeront jamais. Bon, c'est vrai que sur le plan sociétal, les religions, les grandes religions telles que nous les connaissons, et en particulier dans l'espace méditerranéen, sont un peu en retard sur la société. C'est le moins qu'on puisse dire, sur les évolutions de la société. Mais néanmoins, être catholique au XVIe siècle, ou être catholique au XIXe, ou être catholique à la fin du XXe, c'est pas la même religion. Et ça, il faut en être, même si les autorités religieuses vous diront le contraire. Mais ce sont des manières de vivre le religieux de manière très différente. Et donc, ça donne beaucoup de liberté, parce qu'il y a une agentivité. Il y a une agentivité des personnes, et donc, y compris des femmes. Et donc, le message qui est... évidemment, il y a des exemples un peu horribles, en particulier toute la logique des crimes d'honneur en Syrie. C'est absolument ahurissant. Je veux dire, en éditant ce livre, c'est un des chapitres qui a été le plus compliqué à supporter, parce que c'est encore une pratique actuelle. Mais c'est une pratique culturelle. Elle est culturelle, elle n'est pas religieuse. Et voilà, donc il y a des choses... il faut arriver à distinguer de ce qui relève du culturel et de ce qui relève de la spiritualité. Et c'est un peu pour ça que nous avons approfondi tous ces différents détails. Il y a un deuxième exemple, je ne sais pas, peut-être je parle trop, mais vous parliez de la partie sur la Turquie. J'avais un étudiant en master absolument brillant qui avait fait un séjour de 4 ans en Turquie et qui s'est intéressé. Il était haïtien et noir. Il a fait 4 jours d'études en Turquie et il s'est intéressé aux femmes voilées en Turquie et pourquoi, comment elles motivaient leur voile alors qu'elles avaient une vie extraordinairement contemporaine, avec les réseaux sociaux, influenceuses, etc. etc. Donc, c'est ces chocs culturels aussi qui sont très intéressants et qui montrent que il faut sortir des idées reçues, parce que les choses avancent. Le plus grand obstacle, c'est le manque de... et je dirais que c'est au Machrek, au Proche et Moyen-Orient, que c'est le plus évident, c'est que chacun est enfermé dans son statut personnel, dans sa communauté religieuse, du point de vue du droit. Et donc, il n'y a pas de mixité, il n'y a pas d'échange. On ne peut pas se marier entre chrétiens et druzes, entre druzes et sunnites, etc. Et toutes ces minorités vivent les unes à côté des autres en ayant peur les unes des autres. Et donc, ce manque de citoyenneté, ces États qui n'ont pas été jusqu'à accorder une citoyenneté égale à tous leurs membres, eh bien, c'est un frein considérable à la liberté des hommes, bien sûr, mais aussi des femmes.
Bon, très bien, nous avons merci bien, Valentine Zuber, nous avons plein d'éléments pour réfléchir l'essentialisation, la construction de l'émancipation, la construction du féminisme, la tentation tout à fait occidentale, peut-être, de s'approprier de l'émancipation et aussi du féminisme, si j'ai bien compris vos mots. Et maintenant, nous allons proposer à nos auditrices et à nos auditeurs un petit moment de musique que je vais introduire. Nous allons écouter un morceau de musique d'un compositeur anglais j'espère, bien connu, mais si vous ne le connaissez pas, c'est une surprise peut-être aujourd'hui, qui s'appelle John Taverner. Et le morceau s'appelle The Lamb, dont les mots ont été créés par un des plus grands poètes anglais qui est William Blake.
Aligre FM 93.1.
Oui, Valentine Zuber, j'avais envie de vous poser une question un peu plus générale sur la laïcité, puisque vous en êtes aussi spécialiste. Alors, de manière très simple, on la définit comme séparation entre l'Église et l'État, mais vous allez certainement nous préciser ça. Et le fait de ramener donc le religieux peut-être aussi dans le domaine du privé. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure cette laïcité influence-t-elle justement la position de la femme dans la société ? Et inversement, donc c'est un peu une double question, si notre société tend de plus en plus à confondre le public et le privé, en particulier avec les réseaux sociaux par exemple, est-ce que la laïcité elle-même du coup ne risque pas d'être menacée ?
Voilà. Merci pour votre question. Alors là, on sort un petit peu de l'espace méditerranéen, encore que c'est une vraie question, la laïcité, en particulier dans les pays du sud de la Méditerranée. On ne peut pas dire que ces pays soient laïcs. y compris les anciens États dits laïcs, tels que l'Irak, la Syrie, l'Égypte, etc. Bon, mais qui ont une forme de laïcité qui n'est pas tout à fait comme la nôtre. Alors, je ne sais pas, donner une définition de la laïcité, c'est toujours un peu une gageure, parce que soit on donne une définition de ce qu'est la laïcité française, soit on donne une définition de ce qu'est la laïcité européenne, soit... Bon. Donc, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que vous avez raison, il y a des choses importantes qu'il faut retenir quand on parle de laïcité d'un État, c'est que celui-ci doit être à la fois neutre et impartial vis-à-vis de toutes les propositions de sens qui émergent dans la société, que ce soit des propositions religieuses ou des propositions philosophiques de type franc-maçonnerie ou autre libre-pensée. Donc un État neutre et impartial et un État qui traite à égalité tous ses citoyens de quelques croyances ou convictions qu'ils se réclament. Et enfin, évidemment, un enjeu d'égalité et de liberté qui est donné à toute forme de croyance, hein, qu'elles soient des croyances religieuses ou des croyances plus philosophiques. Donc voilà, en fait, ce qui fait la marque d'un État laïque, et vous remarquez tout de suite que c'est aussi ce qui fait la marque d'un État de droit, c'est-à-dire quelqu'un qui est un État qui respecte les individus. Est-ce que la laïcité est menacée par, si j'entends bien votre question, par les convictions religieuses, par les groupements religieux
Par la confusion qui pourrait y avoir dans notre société entre le domaine du privé et le domaine du public voilà.
Oui. Alors ça, c'est une vaste question. Évidemment, je n'aurais pas forcément une réponse univoque,
oui, bien sûr.
Mais elle est intéressante parce qu'effectivement, ce qui relève de l'État, c'est l'espace... du public, mais ça ne veut pas dire, attention, l'espace public, c'est l'espace commun. L'espace commun partagé n'est pas, ne relève pas de l'État et ne relève pas non plus de l'espace privé. Donc il y a cet espace intermédiaire entre ce qui relève du rôle de l'État, qui doit être laïque, neutre, impartial, non discriminatoire, etc. L'espace de la liberté totale privée dans son fort intérieur ou dans sa pratique religieuse dans les habitations ou dans les lieux fermés. Et puis, il y a cet espace commun partagé où là, tout s'entrecroise. Hein, tout s'entrecroise et souvent, enfin, peut-être actuellement, en ayant un peu peur du religieux ou effectivement de cette privatisation, publicisation, on ne sait pas très bien, hein, on expose sa vie sur les réseaux sociaux, eh bien, l'espace commun partagé devient un enjeu important pour les uns et les autres et on ne sait plus très bien ce qui relève de quoi. Je pense que la laïcité est le cadre qui permet d'organiser la liberté. Il n'y a pas de liberté sans frontières à la liberté. Hein. Donc, il faut qu'il y ait un cadre. Et l'État, par sa souveraineté, sur lequel nous avons beaucoup discuté, donne le cadre légitime et auquel tous les citoyens doivent se référer. Mais ce cadre... il ne doit pas être liberticide non plus. Donc tout ça est évidemment une question d'appréciation, mais une question du fait que la laïcité doit respecter la démocratie. Une société qui serait laïque, qui serait neutre, qui serait sans couleur, sans odeur et où tout le monde serait pareil, ne serait plus une société démocratique. Donc il faut faire très attention dans tous ces débats sur la diversité religieuse, sur la visibilité religieuse, que c'est la liberté que la laïcité coordonne et pas les interdictions, et ça n'est pas un règlement intérieur.
Alors, il y a effectivement la diversité, puis il y a la représentation aussi qu'on se fait de cette diversité. Et j'avais aussi envie de vous parler de quelque chose que j'ai lu dans un magazine qui est Philosophie Magazine, qui est un numéro spécial d'avril 2021 qui porte sur le thème « Avoir 15 ans ». Et donc, ils ont fait des enquêtes avec chez les jeunes. Et ils ont... noté, ils ont mis en avant plusieurs contradictions. Et donc celle qui m'intéresse, c'est la représentation que les adolescents se font de la laïcité. Et ma question portait autour de cette représentation. Est-ce que vous pensez que il y a finalement une nouvelle représentation de la laïcité dans nos nouvelles générations ou pas? Alors pour vous poser cette question, je m'appuie sur un extrait que je vais vous lire très rapidement. Hein, c'est très simple. Les ados considèrent naturel qu'autrui puisse ne pas penser comme eux. La laïcité leur apparaît en revanche comme un principe discriminant, allant contre un besoin de reconnaissance identitaire. L'invitation au respect de la différence est muée en revendication des particularismes. Il leur semble, par exemple, légitime de pouvoir porter le voile à l'école quand d'autres sont autorisés à porter une croix. Et un peu plus loin, l'article dit « Car cette acceptation pluraliste et relativiste des différences n'est pas fondée sur des principes universels intangibles, mais sur le souci de la paix sociale. » Donc, enfin, j'ai l'impression avec cet article qu'on assiste par rapport à la laïcité à un changement de paradigme qui est moins universel, qui est plus relativiste.
Oui, c'est intéressant. C'est un numéro qui n'est pas tout à fait récent, mais qui a déjà saisi une tendance et qu'on a vu se confirmer à travers des sondages d'opinion auprès des jeunes, en particulier, je crois, à l'automne dernier, et qui reprennent exactement ce même genre de discours, plaidant pour le respect, pour la liberté individuelle, pour la liberté de montrer son identité en public, et donc évidemment et viser cette fameuse loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique pour les mineurs. Il faut prendre en considération cette demande. Et peut-être parce que les adultes, de l'autre côté, se disent « Ouh là là, la laïcité est menacée, les valeurs de la République risquent de ne pas être respectées, etc. etc. » Et je pense que les deux positions, on est dans une confrontation typique entre adolescents et adultes. Hein. Les deux positions sont évidemment... outrés de chaque côté. Mais peut-être il faut entendre quand même ce discours de la diversité. On parlait de multiculturalisme dans les années précédentes, on n'en parle plus, c'est devenu presque un gros mot. Mais pourtant, c'est ce qui se passe dans nos pays, dans nos sociétés. Elles sont profondément multiculturelles. Mmh. Donc, il faut peut-être interroger quand même les politiques publiques qui sont souvent faites par des gens finalement assez âgés et qui sont issus d'une classe sociale un peu privilégiée et qui ne se rendent pas bien compte que leurs préjugés sont des préjugés de classe et de culture aussi. Et donc, la laïcité, ça ne peut pas... on peut brandir les grands mots, hein, dire que c'est... en France, elle est le témoin de l'universalité, etc. Néanmoins, on a une diversité et il faut faire quelque chose avec. Il faut que ces jeunes deviennent des citoyens à part entière et avec des droits égaux et une liberté égale aux autres. Donc, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin, si je puis dire. Ou dans... de part et d'autre. Hein, oui. De part et d'autre. Et ne pas crier aux orfraies que c'est le communautarisme et le séparatisme qui va gagner à tout moment, parce que certaines adolescentes souhaitent porter un accessoire qui rend les Français fous depuis 30 ans. Il faut peut-être raison garder. Évidemment, se méfier de l'entrisme politique, comme on se méfie des minorités religieuses qui peuvent enfermer les jeunes, parce qu'ils n'ont pas encore le cerveau complètement épanoui et averti. Mais il faut aussi respecter cette demande de liberté, me semble-t-il. Et c'est très dommage que la laïcité soit considérée comme barbante ou comme oppressante, alors que justement, elle est le cadre et la possibilité de l'exercice de sa liberté individuelle dans l'espace public, évidemment, dans les règles de la société.
Oui, il y a une mécompréhension, là, j'ai l'impression, de la part des jeunes, et qui est assez nouvelle, en fait.
Alors bien, nous passons maintenant à un sujet. Vous êtes une grande différente, mais pas si différente. Vous êtes une grande spécialiste de 3D l'homme, Valentine Subert. Et alors, aussi de leur histoire. Et dans quelle mesure pensez-vous que les 3D l'homme sont aujourd'hui véritablement et peut-être avant tout, les droits de la femme et des femmes.
C'est une question un peu piège, mais vous avez raison. Je pense que, d'abord, on est le seul pays au monde à continuer à parler des droits de l'homme, alors que c'est évidemment le droit de tous les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Déjà, il y a un petit côté vieille France là, qui est agaçant. Mais bon, c'est la manière dont on en parle, et puis il y a toute une histoire qui est invoqué pour quand on veut changer l'appellation. Mais donc les droits humains, ce sont évidemment les droits des hommes libres, hein, et donc les droits de ceux qui ont été opprimés dans le passé, qui sont les plus importants. Ça a été les enfants, les esclaves, et puis évidemment la moitié de l'humanité, les femmes. Donc, effectivement, le terrain d'application, et d'ailleurs, il y a une convention hein, sur les atteintes faites aux droits des femmes qui existent à l'ONU et qui complètent encore les textes du système international des droits de l'homme. C'est peut-être un des chantiers les plus importants actuellement dans le monde. Parce que, bon, on l'a vu pour la Méditerranée, les choses sont partiellement en cours, ça a bien évolué, ou évolué de manière assez satisfaisante, et ça s'est accéléré ces dernières années dans le côté nord de la Méditerranée. Il y a des progrès ponctuels dans le sud-ouest de la Méditerranée, et il y a une espèce d'oppression sans fin dans l'est de la Méditerranée, et qui est partagée d'ailleurs par toutes les cultures religieuses, les juifs orthodoxes, comme les sunnites, comme les coptes, comme tout ce que vous voulez, les chrétiens d'Orient, voilà. Donc oui, je pense que le combat des droits humains actuellement, c'est les droits des femmes qui... Et évidemment, de la famille et des enfants, enfin des personnes, toutes les personnes vulnérables doivent être émancipées et protégées par les droits humains.
Alors, je ne vais pas mentionner, mais j'aimerais bien le rappeler à nos auditrices et nos éditeurs, le culte des droits de l'homme, apparu chez Gallimard en 2016, parmi vos ouvrages sur la question de droits de l'homme. Donc, une catégorie, on peut dire aussi, à travailler toujours, qui a toujours quelque chose à dire.
Ah oui, mais c'est comme la laïcité, enfin, c'est comme tous ces principes, les droits et libertés, c'est à la fois à conquérir, c'est à inscrire dans le droit. On peut philosopher, on peut faire de l'histoire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais tant que c'est pas dans le droit, ça n'existe pas. Et puis c'est à approfondir et à transformer au fur et à mesure. Dans le livre que vous venez de mentionner, Le culte des droits de l'homme, je montre bien comment, sous la Révolution française, on fait un magnifique texte qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais c'est effectivement la Déclaration des droits de l'homme, c'est pas la Déclaration
Absolument.
Des femmes, c'est pas la Déclaration des droits des esclaves, c'est pas la Déclaration des droits des enfants, ni des... Voilà. Donc, c'était une certaine idée, une très belle idée en gestation à la fin du XVIIIe, et depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est évidemment, ça s'est universalisé. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on est dans une période un peu de déclin de cette idéologie des droits de l'homme et de remise en cause par certains espaces, par certaines cultures, pas forcément religieuses d'ailleurs. Hein, voilà. Et donc, cette remise en cause affaiblit effectivement le combat de respect, enfin, le combat qui est nécessaire et continu pour que les États respectent les droits de leurs sujets ou citoyens, de quelque ethnie ou religion ils se réclament.
Absolument.
Alors, chers auditeurs d'Aligre FM, vous écoutez Philosophie au présent, l'émission du Collège international de philosophie, qui a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui l'historienne Valentine Suber. Et nous passons maintenant à notre rubrique Flanosophie, créée par Michele Saporiti, qui va nous faire flanosopher sur un thème improbable, bien sûr, et cela après la musique.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue à cette petite rubrique de philosophie au présent qui s'appelle Flanosophie. Alors l'invitation est toujours la même, prenez votre temps, éloignez encore pour un instant votre portable parce qu'il ne sera pas de grande utilité dans l'espace improbable où nous irons flanosopher aujourd'hui. Un espace que, au moins comme spectateur, tout le monde connaît très bien. Cet espace est celui des nuages. Or, c'est bien difficile de dire le nuage, mais qu'est-ce qu'un nuage? Tout d'abord, un nuage est un espace ouvert, un mouvement, un espace qui fuit la stabilité, mais pas la réalité, un espace qui se nourrit d'air et de caprices du vent, un espace enfin qui change sans rien faire pour ne pas changer. En ce sens, un nuage est l'espace de la précarité heureuse, de l'instabilité triomphante. Mais qu'est-ce qu'il y a d'heureux ou de triomphant dans la précarité ou l'instabilité, cher philosophe ? La précarité, question difficile et délicate dans notre époque, ou peut-être dans toute époque. Alors, essayons de donner confiance au nuage et posons la question suivante. Qu'est-ce que le nuage en apprit à leurs élèves préférés, les philosophes, n'est-ce pas, cher monsieur Aristophane? Il y a pas mal de leçons que directement ou indirectement, les philosophes ont bien développées grâce au nuage et à ce qu'un nuage représente. Par exemple, le nuage nous reconfirme que « panta rei », que tout est flux. À repérant Héraclite, ok, rien est comme il semble dans les jeux des illusions du monde, en évoquant Schopenhauer, ou encore un nuage nous fait bien penser au chaos poussiéreux et productif de Nietzsche, un chaos d'où naissent bien plus qu'il de simples étoiles. Cet espace ouvert que nous appelons nuage différencie un objet philosophique pour les philosophes contemporains et passés, un objet dans lequel philosopher pour donner au sens. Du sens à ce qui nous échappe. Alors, petite question pratique, comment rejoindre un nuage? Comment poser un pied après l'autre dans cet espace moins éphémère qu'on le croyait auparavant? Ah, il y a une seule solution radicale. Pour rejoindre un nuage, il faut devenir un nuage. Oh, bon, mais quelle génialité! Devenir un nuage! Il semble que nous sommes en train de faire plutôt une pratique de méditation orientale. Mais non, cher philosophe, pas du tout. La question est différente. Comment devenir philosophiquement un nuage? Ou comment devenir un nuage philosophique? Pour ce faire, nous devrions essayer de vaporiser nos pensées, de les faire distiller vers le haut, là où la seule chose qui réellement compte est la possibilité de la pensée, la potentialité de modeler une idée, de changer sa forme, de lui donner une couleur. Et à cet auteur-là, en contact avec le plaisir de la plasticité vivante, les idées nuageuses deviennent une source infatigable d'objets philosophiques éclaircissants et concrets. Et dans ce temps qui nous reste, je voudrais explorer avec vous un objet philosophique très dense qui surgit de la lumière inattendue d'un nuage, l'ombre. N'avez-vous jamais observé l'ombre de nuages sur la mer, où leurs contours sont un champ caressé par le vent dans une belle journée d'été? L'ombre est parmi les grands objets que les nuages apprennent à la philosophie, car dans une ombre, il y a toujours un exercice de projection, et dans un exercice de projection, il y a toujours une distance à valoriser, un sens à construire, une apparence à déconstruire. Et c'est précisément là, dans cet effort de construction, de déconstruction et du sens, que la philosophie appelle toutes et tous à pratiquer un geste de pure subversion. Montez abordant Nouage avec les seuls deux bagages consentis au Flanosov, la lanterne de Diogène, mais aussi le parapluie de Mary Poppins.
Allegre FM 93.1.
Merci beaucoup, Michele, pour cette flanosophie. Donc, nous voilà avec cette flanosophie dans les nuages, n'est-ce pas ? Nous avons pris de la hauteur, nous avons flanosophé. Et nous allons pouvoir nous livrer à un autre petit exercice que l'on prépare pour chaque invité. Il s'agit d'un petit questionnaire pas trop rationnel, c'est-à-dire
oui,
que...
On souligne, pas trop rationnel, oui.
Pas trop rationnel, dans le sens où il s'agit de répondre spontanément à des questions qui n'ont pas forcément un grand sens, mais qui est prétexte, voilà, à échanger. Nous avons une réserve de 11 questions, puisque le mot philosophie a 11 lettres, donc oui, vous voyez, ce n'est pas rationnel du tout. Et donc, voilà, vous êtes prête?
Absolument, absolument. Je ne savais pas que philosophie et poésie rimaient aussi bien.
Alors, première question, qu'avez-vous envie de dire à la jeunesse?
D'avoir confiance et... de ne pas adopter immédiatement une posture victimaire avant de... parce que c'est une manière de se fermer l'avenir. Voilà.
Merci beaucoup. C'est
bon conseil.
Quel est votre plus grand espoir?
Mon plus grand espoir... Évidemment, ça serait la paix dans le monde, mais...
Tout est permis, hein, dans Tout les réponses, permis, oui. Voilà.
Oui. Mon plus grand espoir serait que, évidemment, je suis une intellectuelle, serait que les gens réfléchissent un peu plus. Mm. Voilà. Mais ça, c'est... Parce qu'on peut être en désaccord, mais quand il y a des niveaux de compréhension très différents, c'est presque impossible d'établir une relation. Et donc... C'est ça qui me peine un peu.
Oui, et ce qui nous guette, c'est la paresse intellectuelle voilà. Que dénonçait déjà Kant.
Oui. Donc,
qu'est-ce
oui,
que
oui.
les Lumières ? C'était déjà cette idée-là, quoi. Mmh. Effectivement. Troisième petite question non rationnelle. Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel ?
Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que... Ouais. Non, spontanément, j'ai pensé rouge, bien mais sûr. Je ne suis pas révolutionnaire. Alors, peut-être un rouge atténué, je ne sais pas.
Magnifique, oui.
Un rouge terracotta.
D'accord, la terre. Quatrième question. Quelle est la chose la plus irrationnelle à laquelle vous avez déjà pensé?
D'épouser un aristocrate.
C'est joli. Dernière question. Alors, c'est bien pour une historienne. Quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi?
J'aurais aimé rencontrer quelqu'un qui n'est pas... tellement connu, mais qui s'appelle Ferdinand Buisson, qui est un grand intellectuel, qui a été un collaborateur de Jules Ferry, qui a créé l'école laïque et obligatoire. Et j'aurais voulu discuter avec lui pour le pousser un peu dans ses retranchements, parce que c'était un esprit puissant, mais qui avait beaucoup d'idées parfois divergentes sur la laïcité, sur la spiritualité, parce que c'était un spiritualiste. Et moi, je suis très sensible... comme vous l'avez peut-être entendu, au fait que l'homme a besoin de spiritualité, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit philosophique. Et je trouve que dans nos sociétés très matérialistes, on oublie un peu ça trop souvent. Enfin, on oublie ça. Voilà.
Grand merci Valentine Zuber pour cette présence aujourd'hui et vos réponses. Je rappelle encore Femmes et religions à Méditerranée sous la direction de Valentine Zuber et Alberto Fabio Ambrosio et Roman Paris 2022.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Donc, je souhaitais également remercier toute l'équipe de Radio Allègre et plus particulièrement Enrico à la technique qui a vraiment bien encadré cette émission. J'aimerais remercier également le Collège international de philosophie avec qui le partenariat s'est fait, hein, entre la radio et le Collège international de philosophie. Évidemment, moi aussi, je vous remercie, Valentine Zuber, pour être venue aujourd'hui et nous parler de manière aussi précise de toutes ces questions qui nous touchent concernant la religion, la laïcité, le féminisme et les droits des hommes. Voilà, et bien sûr, merci, merci Michele.
Merci à toi Stéphanie pour cette aventure aujourd'hui.
J'aimerais encore, chers auditeurs, vous annoncer notre prochaine émission qui aura lieu le samedi 1er juillet à 16h, comme chaque fois. Hein, Philosophie au présent, c'est un samedi, c'est le samedi à 16h, avec cette fois-ci la philosophe Angélique Del Rey, qui viendra nous parler de l'évaluation et de l'inflation de l'évaluation dans le système scolaire, mais aussi le fait qu'on ait de plus en plus recours à des mesures, à une quantification dans notre vie, même dans notre vie quotidienne, et cela en relation avec justement ce culte de la performance. Voilà. Et je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée à toutes. Au revoir.
Au revoir. Merci.
FM 93.1